Comme chaque deux semaines, en après-midi comme ça, les mardis, on s'intéresse aux activités du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Et aujourd'hui, on parlera de cette notion de conjoint de fait. Les statistiques démontrent que 42 % des couples au Québec étaient en union libre en 2021. C'est un pourcentage beaucoup plus grand qu'avant. C'était 8 % en 1981. Donc là, on veut bien connaître les règles juridiques qui s'appliquent à ce régime de vie commune. Et c'est pourquoi on parle aujourd'hui avec Sophia Aïssaoui, qui est étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Sophia, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Bon, repartons de la base. Allons-y avec les définitions. Qu'est-ce que c'est être conjoint de fait?
Donc, dans le fond, l'union de fait, c'est lorsque un couple, avec ou sans enfant, fait vie commune sans s'y être forcément engagé en public, comme par exemple par le mariage. Mm-hmm. Il faut savoir que l'union de fait ne lie pas les conjoints, ce qui signifie qu'ils n'ont aucun droit ni obligation l'un envers l'autre. Et selon la loi, les conjoints de fait sont considérés comme deux célibataires, peu importe la durée de leur union. Donc même si vous avez cohabité pendant 5, 10 ou 30 ans avec votre conjoint, aux yeux de la loi, vous êtes simplement des colocataires.
Puis croyez-vous que la population québécoise a une bonne connaissance de ce que c'est réellement être conjoint de fait?
Mais dans le fond, c'est dur à savoir, car malgré la popularité grandissante du concept, je crois que malheureusement, il existe encore beaucoup d'incompréhensions concernant le régime, ou plutôt concernant l'absence de régime juridique qui entoure justement les conjoints de fait au Québec. Mm-hmm. Beaucoup pensent encore que faire vie commune avec une personne pendant un certain nombre d'années, ou même fonder une famille avec cette personne, donne les mêmes droits que ceux accordés à un couple marié. Mais hélas, c'est pas le cas. C'est que j'aimerais mentionner aussi que du fait de notre proximité avec l'Ontario, on a d'autres raisons en fait d'être confus, puisque en Ontario, c'est la common law qui s'applique et les conjoints vivant ensemble et ou ayant des enfants ensemble vont avoir des droits et des devoirs entre eux de façon similaire à des conjoints mariés selon le régime légal de l'Ontario.
Donc, le régime de l'Ontario n'est pas le même, mais est-ce que, Sophia, tu pourrais nous expliquer un peu selon le régime québécois, c'est quoi la différence entre des conjoints de fait et des couples mariés?
Mais la plus grande différence, et ce qui est important de se rappeler surtout, c'est que les couples mariés bénéficient de certaines protections en cas de séparation ou de décès, dont justement les conjoints de fait ne peuvent pas bénéficier.
Okay.
Ainsi, au Québec, les conjoints de fait ne sont tout simplement pas reconnus légalement. Seuls les couples mariés existent en droit civil, donc c'est le droit appliqué au Québec. Mais cependant, certaines lois particulières telles que la loi sur le régime des rentes du Québec, la loi sur l'assurance-emploi ou encore la loi sur les impôts peuvent déroger à cette règle et reconnaissent l'existence des conjoints de fait, justement, dans certains cas.
Mmh.
Et justement aussi, ces lois particulières contribuent à la confusion de la population puisque lorsque vous remplissez vos formulaires d'impôts, par exemple, que ce soit pour le provincial ou le fédéral, vous êtes reconnu si vous êtes en union libre. Donc, pour la majorité des citoyens, à moins d'avoir des connaissances juridiques, il est quand même difficile de comprendre les nuances liées justement au statut de conjoint de fait.
Mais est-ce qu'on pourrait quand même donner quelques différences là, bien concrètes là, pour que les auditeurs comprennent bien?
Mais il y a deux principales distinctions. D'abord, en ce qui concerne les biens. Donc, si un couple marié se sépare, il y aura un partage du patrimoine familial, qui est constitué entre autres de la résidence de la famille, des meubles, des automobiles utilisés par la famille, mais aussi des REER et des fonds de pension accumulés pendant le mariage. Pour le reste des biens, c'est le régime légal de la société d'acquis ou la séparation de biens qui s'appliquera. Alors que la valeur totale sera partagée entre les conjoints mariés, et ça, peu importe qui est le véritable propriétaire, dans le cas des conjoints de fait, il n'y aura aucun partage à la séparation.
Mmh.
Ça implique que chaque personne repartira donc avec les biens dont elle est propriétaire, sauf pour les biens qu'il ou elle auront acquis ensemble. Donc, par exemple, s'ils ont acheté une maison ensemble que les deux noms apparaissent sur les titres de propriété. Ça veut dire qu'il ne suffit pas que une des deux personnes ait payé la moitié de l'hypothèque pendant toute la durée de l'union pour dire qu'elle est propriétaire de la maison. Il faut que les noms apparaissent sur les titres de propriété.
C'est une différence majeure, mais on évoquait deux principales distinctions. C'est quoi l'autre?
Alors, il faut aussi savoir que lors d'un décès dans le cadre d'une union de fait, le conjoint survivant n'est pas automatiquement considéré comme un héritier.
Mmh.
Seul un testament en faveur du conjoint survivant permettra la transmission des biens. Sinon, c'est le régime légal qui s'applique. Donc, par exemple, les enfants, et en absence d'enfants, ce sera les parents du conjoint défunt, et ainsi de suite. Donc, le conjoint non marié n'est jamais mentionné dans la dévolution légale.
Okay.
Ceci est donc très différent de la situation qui prévaut entre les personnes mariées qui, elles, hériteront d'une part de la succession de leur conjoint en l'absence de testament, même si ce n'est pas l'entièreté. D'où l'importance justement de faire un testament lorsqu'on est en union de fait.
Parlons maintenant pension alimentaire. Est-ce que les conjoints de fait, ben justement, ont droit à une pension alimentaire? C'est pas ça. Il n'y en a pas, hein? C'est dans le cas d'une séparation?
Oui, en effet. Donc, ça a été confirmé par la Cour suprême dans l'affaire très médiatisée Lola contre Eric. Mm-hmm. Donc, pour faire un rappel très bref de l'histoire, Lola, elle est conjointe d'Eric pendant 7 ans. Monsieur Eric est un riche homme d'affaires et le couple a 3 enfants ensemble au moment de la séparation. Lola poursuit Eric puisqu'elle considère discriminatoire de ne pas avoir droit à une pension pour elle-même, vu qu'elle avait arrêté toute activité afin de prendre soin de leurs enfants. Mais en définitive, Lola n'a jamais réussi à obtenir gain de cause, car justement, les ex-conjoints n'étaient pas mariés. Ils avaient seulement une union de fait. Donc, je le répète, peu importe le nombre d'années que vous avez passé ensemble, que l'un des conjoints soit resté à la maison pour élever les enfants, par exemple, ou si l'un des conjoints a accepté de travailler à temps partiel pendant que l'autre conjoint pouvait continuer de travailler à temps plein, ou à accumuler de l'ancienneté et du fonds de pension, rien ne sera séparé et aucune compensation ne sera versée. Par contre, si les personnes avaient été mariées, par exemple, dans ce cas-là, elles auraient eu le droit à une pension pour leur permettre de retrouver un emploi, retourner aux études, rétablir l'équilibre entre les parties et tenir compte que les conjoints ont pris des décisions pouvant défavoriser un des deux parents, justement, pour le bénéfice de la famille.
Bon, là, on parle d'union, de trucs entre les deux parents, mais qu'est-ce qu'il y en est au niveau de l'union de fait? Est-ce que ça a un impact sur les droits des enfants maintenant?
Donc, non. C'est important de le mentionner car tous les enfants sont égaux aux yeux de la loi, qu'ils soient nés dans une union de fait ou dans un mariage. La question de la garde et de la pension alimentaire pour un enfant n'ont du coup aucun lien avec le statut civil du couple. Par conséquent, suite à une rupture, un des ex-conjoints pourrait avoir à verser une pension alimentaire pour un enfant à l'autre. Mais cette pension, il faut le savoir, elle sert uniquement à combler les besoins des enfants, afin qu'ils ne se sentent pas de différence s'ils sont chez l'un ou l'autre des parents en termes de soins, d'aliments, d'habillement, etc. Ainsi, la pension alimentaire est calculée en fonction des salaires des parents au moment de la séparation et du temps de garde. Et elle peut être révisée à n'importe quel moment si le salaire ou le temps de garde change. De plus, toute décision relative à la garde et au droit d'accès devront être prise dans le meilleur intérêt de l'enfant, comme si cela était le cas pour des enfants issus d'un couple civilement marié.
Puis là, pour les personnes qui nous écoutent puis qui vivent en union de fait, est-ce qu'il y a des façons de contourner quelques règles mentionnées tantôt et de se protéger en cas de rupture, mais ça, sans se marier, si ce n'est pas notre souhait?
Donc oui, pour se préparer à l'avance puis diminuer le nombre d'incertitudes liées à l'union libre, les conjoints de fait peuvent rédiger ce qu'on appelle un contrat de vie commune. Ce contrat permet au couple de définir leurs droits et obligations respectives durant la vie commune et de prévoir un partage de leurs biens dans l'éventualité d'une séparation. Il peut être préparé par les conjoints eux-mêmes ou par un notaire ou un avocat pour s'assurer justement de rien oublier et que le contenu soit conforme à la loi. Pour les couples qui ne désirent pas convenir d'un contrat de vie commune, une autre forme de protection pourrait consister à assurer de faire tous les gros achats en commun, comme les résidences, maisons, chalets, etc.
Okay.
Parce que si un seul des conjoints est propriétaire, l'autre n'a aucun droit à faire valoir à cet égard lors de la rupture. Justement, la copropriété donne donc à chacun des conjoints une voix dans les décisions et une part dans les profits suite à la vente d'un bien. Et sachant que les conjoints de fait peuvent s'entendre sur ce qu'ils veulent dans leur contrat de vie commune, il pourrait y avoir aussi tout autre type d'accord dans le couple, comme par exemple un versement mensuel de REER du conjoint qui accepterait un travail moins lucratif pour être plus disponible auprès des enfants. Finalement, je tiens à insister sur l'importance de considérer avoir un contrat de vie commune, car même si c'est assez facile de savoir qui est propriétaire d'une maison, c'est moins évident pour la plupart des autres biens. On peut parier sur la bonne foi des couples pour se rappeler qui a payé les meubles, mais on sait aussi parfois que la mémoire est une faculté qui oublie.
Oui.
Puis de plus, pour les biens comme les voitures, il y aura souvent un seul propriétaire sur l'immatriculation, qui implique que l'autre conjoint aura à prouver judiciairement qu'il a aussi contribué à l'achat si ce dernier cherche à partager justement la voiture après la séparation.
Oui, puis la mémoire est une faculté qui oublie aussi quand la séparation se fait de bonne entente. C'est pas toujours des moments des moments joyeux où on a le goût de se rappeler exactement de tout aussi à ces moments-là.
100%, c'est souvent difficile. Fait que compter sur la bonne foi, là...
Oui, pas toujours. On est mieux de prendre de l'avance. Puis, Sophia, si nos auditeurs ont des questions, ils peuvent communiquer avec vous?
Oui, ils peuvent toujours nous joindre par téléphone au 844-606-4600. Je répète, 844-606-4600. Ou ils peuvent aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Je rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Sophia Issaoui, étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci, puis à bientôt.
Merci à toi, Sébastien. Au revoir.